et bonjour à tous. Bienvenue dans notre magazine Tourne-Page sur Radio Grand Ciel. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Gérard Leray à propos d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, intitulé « Monsieur Paul ». Bonjour Gérard Leray.
Bonjour madame.
Ce n'est pas votre premier livre, donc comment en êtes-vous arrivé à l'écriture ? Vous êtes à la fois professeur d'histoire et historien.
Effectivement, donc mon travail d'écriture a commencé il y a une petite dizaine d'années. Tout a commencé par l'histoire de la tondue de Chartres, d'après la célébrissime photographie de Robert Capa,
oui.
Ouvrage écrit avec mon ami historien Philippe Frétinier. J'ai enchaîné ensuite avec un roman historique qui s'appelle L'honneur perdu de Juliette Rassenier. L'an passé, j'ai rédigé la biographie d'un commissaire de police, le commissaire de police de Chartres pendant la période 1939-1943, monsieur Charles Porte, avec le thème perpétuel de savoir s'il fut un héros ou un traître. Et au printemps de cette année, j'ai sorti mon quatrième ouvrage, fondamentalement historique, une nouvelle biographie, la biographie de Monsieur Paul.
Donc là, il n'y a rien de romanesque.
Absolument rien de romanesque. Mon seul ouvrage romanesque, c'est le second, c'est L'honneur perdu de Juliette Rassenier. Sur le total de mes quatre ouvrages, trois sont intégralement historiques.
Vous travaillez comment alors ?
Je travaille passionnément. Vous imaginez que je n'ai pas de temps mort dans mon existence. Quand je ne travaille pas, je m'occupe évidemment de ma famille, mais surtout je passe un temps considérable dans de multiples recherches historiques. J'écume les archives, qu'il s'agisse d'archives municipales, départementales ou même nationales. Il m'est même arrivé d'aller à l'étranger pour consulter des documents particuliers.
Parce que vous allez sur place, vous ne vous contentez pas d'Internet.
Effectivement, l'un des aspects les plus intéressants de ce métier, entre guillemets, c'est de pouvoir se déplacer. Et je n'hésite pas à me déplacer. Sachez par exemple que pour arriver à reconstituer la vie de Monsieur Paul, je me suis déplacé à de multiples reprises, aussi bien dans le nord de la France, d'où est originaire Monsieur Paul, mais également dans le sud, à Marseille, où j'ai trouvé des trésors d'archives concernant la vie de ce monsieur, notamment pendant la période de l'occupation.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'archives qu'on n'a pas dépouillées comme ça ?
Oh oui. Oui, oui, on peut même dire, alors c'est une question effectivement un peu vaste, mais sachez que sur l'histoire du XXe siècle, on peut considérer qu'il y a des kilomètres et des kilomètres d'archives qui n'ont pas encore été dépouillées. Juste un détail d'histoire locale, sachez que les archives municipales de Chartres recèlent de formidables trésors, mais faute de personnel, faute de petites mains suffisantes, je peux vous assurer qu'il s'écoulera encore des années avant que l'on trouve, que l'on explore complètement toutes les archives municipales de Chartres.
Vous avez donc encore beaucoup de travail, un avenir
alors,
très réjouissant.
J'espère que je ne serai pas le seul, mais en tout cas, je veux bien montrer aux gens qui sont passionnés par cette histoire comment faire pour rentrer à l'intérieur des documents.
Mais quel style d'histoire retient votre attention ?
Alors, je dirais que c'est l'histoire des petites gens, des gens qui ne sont pas a priori très célèbres. Moi, je suis un spécialiste de la micro-histoire. J'exhume de l'histoire, des oubliettes de l'histoire, des gens inconnus. Et en éclairant ces gens-là à la lueur de la grande histoire, je leur donne un sens, je les façonne. En fait, je les sors de l'oubli. Et donc, c'est de la micro-histoire auquel je me livre quasiment tous les jours.
Mais qui nous permet de comprendre peut-être la grande histoire, ou tout au moins certains aspects.
Exactement, et autour d'un thème récurrent qui est celui du caractère double des gens. Vous et moi, nous avons des personnalités, et nous avons une part apparente, et nous avons aussi des jardins secrets. Et dans tous mes travaux historiques précédents, je me suis attaché à révéler la part d'ombre des gens. Ce fut le cas pour Simone Touzeau, la tondue de Chartres. Ce fut le cas aussi pour Charles Porte, le commissaire de police. Et bien évidemment pour Monsieur Paul, dont la part d'ombre est absolument extraordinaire. Ce qui lui a permis d'escroquer et d'abuser des centaines et des milliers de gens tout au long de son existence, c'est-à-dire de 1908 à 1998.
Alors c'est quelque chose qu'on apprend très très vite dans le livre. C'est-à-dire que vous commencez par certaines escroqueries plus anciennes, donc on sait déjà que le personnage a un passé un petit peu lourd quand il arrive à Emmaüs.
Effectivement. Au départ, je partais dans l'inconnu. Et lorsque j'ai pu accéder aux archives, aussi bien à Paris qu'à Marseille ou même à Lille, aux archives départementales de Lille, j'ai découvert que le personnage, depuis sa jeunesse, depuis l'âge de 22-23 ans, est un escroc. Et un escroc qui a ça dans les tripes, dans l'âme. Et j'ai reconstitué sa carrière et reconstitué ainsi la vie d'un homme qui passe des années et des années de sa vie en prison, toujours pour le même motif, escroquerie. Cet homme a escroqué tout au long de sa vie et avant d'escroquer un certain nombre de personnes à Chartres dans les années 80, il avait escroqué des gens dans le nord de la France, du côté de Marseille, du côté de Tours, du côté de Paris et puis surtout pendant deux décennies passé au sein de cette vénérable institution qu'est Emmaüs.
Où il a fait beaucoup de choses positives finalement.
Eh bien c'est le grand mystère de la vie de M. Paul. En fait, mon livre s'articule autour d'une énigme. Monsieur Paul était-il un saint homme, zone de lumière, et un escroc, zone d'ombre, ou était-il exclusivement un escroc ? Et je vous avoue, madame, que je suis incapable de répondre. Certaines personnes me disent que ce monsieur a développé le mal alors qu'il était naturellement bon. D'autres personnes me disent « cet homme, du début à la fin de sa vie, fut guidé par le mal. Et s'il a fait le bien au cours de sa vie, c'est parce qu'il avait envie et l'intention de berner les gens. »
Et pourtant, vous dites qu'il aime bien faire plaisir. Je lis page 145, « faire plaisir était son obsession. »
Et vous avez raison, il a fait le bien. Cet homme a fait tout au long de sa vie le bien, cependant qu'il a fait en même temps le mal. Vous voyez, c'est difficile à exprimer. Il fut un homme de bien et de mal.
Mais c'est exactement Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Et oui. C'est exactement ce personnage-là. Il a exacerbé la dualité de son personnage. Et j'ose dire que le mal l'a toujours emporté. C'était du moins la thèse de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui adorait M. Paul, qui lui a pardonné, parce que l'abbé Pierre se doit de pardonner à un pécheur. Mais en même temps, l'abbé Pierre reconnaissait que même si le mal l'avait emporté, c'était un homme de bien.
Alors il avait quand même des qualités importantes par rapport à ce qu'il faisait justement dans ses mouvements, puisqu'on peut lire page 144, « J'avais apprécié chez Paul son don absolu de l'organisation. Il arrivait à soulever les montagnes avec des moyens dérisoires. »
Exactement. Vous connaissez évidemment aussi bien que moi la révélation d'Emmaüs, le fameux hiver 1954, cet hiver terrible où des enfants meurent, où des gens sans domicile meurent dans la rue à cause d'un froid intense. Vous vous souvenez de cette image mémorable à la télévision, à la radio, d'un abbé Pierre qui est le révélateur de cette souffrance humaine. Eh bien, sachez que dans l'ombre, au moment où l'abbé Pierre appelle les gens à la générosité, dans l'ombre, vous avez Monsieur Paul qui organise avec ses petites mains et qui, avec des besoins dérisoires, parvient à convaincre des industriels, des commerçants, des gens richissimes ou d'autres moins, de lui donner tout ce qu'ils peuvent pour monter des cabanes, pour monter des tentes, pour amener des ballots de paille et permettre aux gens qui vont mourir de froid de survivre. Monsieur Paul, c'est la petite main de l'abbé Pierre et ça a duré 21 ans.
Ce qui est incroyable, c'est que il fait des erreurs pour quelqu'un qui est quand même certainement forcément très intelligent. Quand il reçoit des gens avec qui il a travaillé dans le cadre d'Emmaüs, il les reçoit dans sa petite maison et il les emmène dans sa cave où il y a tous les champagnes les plus fins. Comment on peut expliquer ça ?
Alors, dans mes recherches menées cette fois-ci aux archives départementales à Lille, département du Nord, je n'ai retrouvé aucune trace d'une quelconque inscription de M. Paul adolescent au lycée. Tout au plus, M. Paul a-t-il un certificat d'études ? Ma thèse, c'est que M. Paul était un enfant précoce. Il était ascolaire, il ne pouvait pas s'adapter à un espace scolaire ordinaire. Il a tout appris sur le tard et sur le tas, plus tard. Son éducation, son érudition, parce qu'il fut érudit vers la fin de sa vie, son érudition qui impressionnait tous ses auditoires. Il l'a acquise par un talent naturel. Il était très intelligent, très remarquable. Il était capable de jouer au piano, à l'oreille. Il était capable de citer de mémoire des poèmes. Bref, il fut un personnage de culture absolument rayonnant.
Les gens croyaient en lui très facilement. C'est pour ça, pensez-vous, qu'il y a eu cette grosse machinerie qui s'est mise en route. Et puis, on sent bien dans votre livre, parce que c'est très bien fait, qu'on va vers une catastrophe. Mais on y va petit à petit et au fil des pages, ça marche toujours.
Ce monsieur est un séducteur. Physiquement, il n'est pas impressionnant, 1m61, rondouillard, mal vêtu. À l'époque d'Emmaüs, il était perpétuellement vêtu d'un bleu de chauffe. Sur sa période chartraine, il change de registre où il s'habille avec un costume. Mais somme toute, la beauté de cet homme est intérieure. Il distille une énergie, une charité, une gentillesse, une disponibilité. Toutes ces qualités le rendent impressionnant. Et toutes ces qualités qui ne sont pas simplement des mots, mais qui se concrétisent dans la pratique, achèvent de séduire et de convaincre les gens que ce monsieur est un ancien banquier, ce qu'il n'a jamais été en réalité, malgré ses dires.
Oui.
Cet homme est un énorme séducteur, absolument remarquable. Il y en a quelques-uns comme ça dans l'histoire d'une vie, de gens qui n'ont l'air de rien, mais qui, somme toute, sont capables de magnétiser, d'hypnotiser, y compris les gens qui ont un intellect supérieur, dont on pourrait imaginer qu'ils sont a priori à l'abri de toutes les arnaques, et qui, malgré tout, finissent par baisser la garde devant l'énorme sympathie du bonhomme.
Est-ce que vous auriez jusqu'à dire que M. Paul avait du charisme ?
Ah mais complètement ! Et j'en veux pour preuve la couverture de mon livre.
Oui.
C'est Emmaüs qui m'a confié cette photographie, et je suis très reconnaissant à Emmaüs. Sur cette photographie, sur la partie droite de l'ouvrage, on voit M. Paul de profil. En face de lui, l'abbé Pierre et deux autres personnages non identifiés. Et les trois personnages regardent avec fascination, avec passion, avec vénération ce monsieur Paul. Mais tout est dit dans cette photographie. L'abbé Pierre est en extase devant son principal lieutenant. Et cette vénération dont fait l'objet monsieur Paul se retrouve auprès de tous les gens que j'ai interviewés, anciens d'Emmaüs, ancien habitant de Chartres ou d'ailleurs, qui ont eu au cours de leur vie à croiser le parcours de vie de ce.
Mais finalement, ils étaient un peu incrédules. Non, pas du tout. Ils étaient trop crédules ou ils avaient envie de trop d'argent. Est-ce qu'on peut le dédouaner un petit peu en disant ça ?
Écoutez, moi je retiens un mot qui m'a été transmis par le dernier avocat de M. Paul, c'est Maître Jean-Marc Recoul, qui est avocat parisien, qui m'a dit à propos de M. Paul, Monsieur Paul était un homme très sympathique. Or, les escrocs sont des gens très sympathiques. Il y a de la crédulité, de la naïveté. Sans doute avez-vous raison, madame. Il y a plus que ça. Il y a, dans ce personnage, une force de conviction. Une force de conviction. Et tout le monde finit par se livrer à ce personnage et se livrer corps et âme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que ce monsieur puisse faire le mal, alors que le mal est là en embuscade.
Vous aimez bien les sujets très contemporains quand même. Est-ce que votre éditeur, quelquefois, a ressenti des pressions par rapport à ce que vous écriviez ou par rapport à ce que vous vouliez publier ? Parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a encore des gens vivants de cette époque-là.
Effectivement. Alors, je vous rassure tout de suite, Christophe Pratt, le directeur de la édition, n'a reçu aucune pression.
Bon.
J'ai joué une carte qui me paraît être complètement normale. J'ai été absolument respectueux de mes interlocuteurs, c'est-à-dire que je ne dévoile rien qui puisse faire du mal. Et ça, pour moi, c'est une ligne éditoriale absolue.
Je vous remercie, Gérard Leray. Je donne les références du livre dont nous avons parlé aujourd'hui. Il s'appelle « Monsieur Paul, l'escroc qui aimait les pauvres » et le sous-titre est important. Et c'est publié, nous l'avons dit, chez Ella Édition. À très bientôt, merci.
Merci, madame.
Merci à Simon qui a réalisé la technique de cette émission. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt sur Radio Grand Ciel. She